Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme, Bruxelles entre dans le vif du budget européen. La Commission européenne a dévoilé sa proposition de budget à long terme, lançant ainsi un cycle de négociations qui s'annonce houleux. En ligne de mire, la répartition des fonds et la contribution des États membres. Déjà, des pays contributeurs nets comme l'Allemagne et les Pays-Bas jugent le projet trop ambitieux. Mais au-delà du bras de fer politique, ce sont des enjeux majeurs qui se dessinent. Qui bénéficiera des investissements dans la technologie, l'agriculture ou encore la transition climatique? Et surtout, quelles retombées concrètes pour les citoyens européens? Et nouvelle bataille autour de la fiscalité, cette fois au nom de la santé publique. La Commission européenne relance son offensive contre le tabac en proposant d'alourdir les taxes, espérant ainsi freiner sa consommation. Une initiative qui rejoint celle de l'Organisation mondiale de la santé qui appelle à une hausse de 50% des taxes sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées. Alors l'objectif, sauver des millions de vies et générer jusqu'à 1400 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Reste à savoir si les gouvernements suivront et si la fiscalité peut réellement changer les comportements. Alors pour parler de ces sujets, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau Janosch Allenbach-Hamann, correspondant pour le média allemand Table Media. Bonjour Janosch.
Bonjour.
Laurie Pacienza, activiste pour la justice sociale et climatique. Et Bruno Coleman, professeur universitaire d'économie et membre de l'Académie royale de Belgique. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors merci à vous trois de nous avoir rejoints. Avant de vous donner la parole, faisons le point sur les étincelles que crée l'épineux débat autour du budget européen. On regarde.
Dire que la proposition de budget à long terme de la Commission européenne ne survivra pas sous sa forme actuelle serait un euphémisme. Quelques heures après la présentation du budget, l'Allemagne a rejeté le plan, estimant que le chiffre global de 2000 milliards d'euros était beaucoup trop élevé, à une époque où de nombreux pays s'efforcent d'assainir leurs finances publiques. Pour le chancelier Friedrich Merz, l'Union européenne doit faire plus avec l'argent dont elle dispose. Il s'oppose ainsi à sa compatriote chrétienne-démocrate Ursula von der Leyen, qui estime que les défis, de plus en plus nombreux, nécessitent une réponse budgétaire adéquate. En d'autres termes, plus d'argent. Il faut donc se préparer à des batailles budgétaires acharnées qui pourraient durer 2 ans. À la fin, tout se résumera à ceci: qui gagne et qui perd?
Avant de parler des gagnants et des perdants, Bruno, je me tourne vers vous. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, l'a présenté comme un budget plus grand, plus intelligent, plus affûté et remodelé pour l'ère nouvelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Et ça veut dire que d'abord, il y a un problème en Europe, c'est sa crédibilité par rapport au reste du monde. Il y a aussi un problème de politique industrielle qui est soulevé depuis de très nombreuses années. Et la véritable question, c'est de savoir quel sera le pouvoir réel d'enforcement, comme on dit en anglais, de la Commission par rapport à des coordinations de politique au niveau national. Et en fait, l'Europe elle-même est confrontée de manière plus fondamentale à une tension interne très forte de manque de cohésion et de manque d'homogénéité entre des pays qui veulent garder un modèle fédéral, d'autres qui veulent un modèle beaucoup plus confédéral, et donc retirer à l'Europe un ensemble de prérogatives. Et on le voit dans différents domaines. Donc le contexte est extrêmement difficile, et s'ajoute à ça le fait que Ursula von der Leyen a plusieurs fois changé d'avis, c'est-à-dire que les priorités ont été mouvantes. C'était le Green Deal, on en parle moins maintenant, c'est la défense aujourd'hui, c'est la concurrence avec les États-Unis sous l'angle commercial, et donc il y a un manque de cohésion, de crédibilité, qui est en plus, comme je disais, sapé de l'intérieur par des divergences.
Alors, les citoyens ordinaires, est-ce qu'ils devraient se réjouir qu'il s'agisse justement d'un budget record, Laurie ?
Alors, un budget record, ça dépend pour qui on parle. On vous l'avait dit, il y a des grands perdants dans ce budget, notamment l'agriculture, 86 milliards de moins. La politique agricole commune qui est maintenant diluée dans un pot commun. Et battez-vous pour les miettes. La nature et le climat, on nous annonce 35% du budget comme si c'était une victoire. Mais en fait, quand on regarde, c'est pour tous les objectifs environnementaux de l'Europe. Et donc, il y a aussi la pollution, il y a aussi l'économie circulaire. Et donc, finalement, la biodiversité,
on
voit qu'elle est perdante.
On va un peu tout mélanger, si je comprends bien.
Complètement. Et donc, la biodiversité qui avait 10% du budget avant, devra se battre pour les miettes en fonction de l'agenda politique. Et on sait que l'agenda politique, il n'est pas en faveur du climat et de la biodiversité en ce moment.
Mmh. Il y a justement le budget réduit le nombre de programmes de 52 à 16 avec une part de fonds complètement non alloués, c'est-à-dire afin de permettre justement à la Commission d'être flexible. Ça ressemble, si on est un peu provoquant, à quelque chose que presque Donald Trump pourrait avoir en tête.
Je ne sais pas ce que Donald Trump ferait, mais c'est clair que c'est une proposition qui renforce la position de la Commission. C'est ça, et elle veut plus de flexibilité. Et après, c'est aussi tout le monde qui disait le budget n'est pas assez flexible et il ne fonctionne pas bien. Donc, ils font une proposition. Donc, c'est compréhensible qu'après, beaucoup d'acteurs aussi de status quo qui veulent défendre ça et qui a un problème. Maintenant, c'est clair que déjà au début de cette négociation, il y a beaucoup de critiques. Si on ne critique pas, on n'aura rien à la fin.
Mmh, mmh. Mais alors justement, von der Leyen, elle veut réduire la dépendance historique de la Commission vis-à-vis de la contribution des États membres et en élargissant justement à l'idée de collecter des revenus, comme on dit « own resources » en anglais. Bruno, est-ce que c'est politiquement réalisable ?
Mais c'est très compliqué, je le disais, parce qu'il y a des oppositions quant au modèle idéal de la Commission. Il y a des forces centripètes, on parle vraiment du cœur de l'Europe, et puis des forces centrifuges, hein, qui sont en fait des pays, les pays du Visegrad, en fait. Hein. La Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, on les connaît. Et donc, on arrive à une situation où on renforcerait le pouvoir de la Commission, alors que ces réalisations en matière d'homogénéisation des politiques industrielles, comme je le disais, sont quand même assez faibles. C'est en contradiction avec la perception que les citoyens de certains pays peuvent avoir. Donc c'est très compliqué, je pense, de vouloir renforcer l'Europe, d'autant plus que les pays font maintenant face à des problèmes très très différents, des endettements spectaculaires qui ne peuvent que mécaniquement augmenter, et donc renforcer le poids de l'Europe par rapport à des pays qui eux-mêmes sont en déshérence budgétaire et d'endettement, ça me paraît extrêmement compliqué. Mm-hmm. Mais ça pose une véritable question de gouvernance. Quelle Europe voulons-nous ? Et le choix, c'est vraiment, est-ce qu'on veut une Europe qui soit beaucoup plus unie, homogène, ouais, comme ça avait été l'idée finalement il y a bien longtemps, ou est-ce qu'on veut un modèle plus confédéral qui permet à des pays d'avoir des positions, ouais, différenciées, ouais, selon les thèmes.
Mais du coup, une commission plus indépendante, Laurie, et justement Yanoche, une commission qui est plus indépendante, donc qui gère le budget d'elle-même, on pourrait dire, donc plus puissante quelque part, est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors ça dépend pourquoi. Une commission qui alloue plus de budget pour les enjeux qu'on a actuellement, oui, c'est une bonne chose, et qui priorise ses budgets, mais par contre, à condition de ne pas verrouiller les États membres et qu'ils puissent ensuite avoir également la possibilité d'investir de leur côté. On voit ici avec l'austérité budgétaire, qui pourrait être une condition d'accès à des financements. Et donc là, en effet, les États membres ne pourraient pas agir, notamment sur le sujet de l'environnement et du climat. Et ça, c'est problématique. Mais par contre, ce que je veux souligner, c'est qu'une ambition que devrait avoir la Commission, c'est plus de budget pour l'enjeu principal qu'on a actuellement, qui est la crise écologique, environnementale, climatique, de la biodiversité. Et ça, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui est très décevant pour ma génération et les générations futures.
Oui, mais alors après, vous parlez effectivement de cette priorité climatique, mais aujourd'hui, on voit que la priorité, c'est la défense, par exemple. Alors justement, est-ce qu'on a mal déterminé ou mal défini les priorités, selon vous, Yanoche ?
Les priorités, ça vient d'un peu le rapport de force qu'on a maintenant en Europe. Maintenant, c'est la défense, le grand enjeu politique. Bien sûr, le climat est l'enjeu réel, matériel, qui est là, mais il n'a pas de force politique en ce moment. Et c'est maintenant qu'on propose...
Ça veut dire qu'il n'y a pas de force politique en ce moment ?
Les Verts ont perdu beaucoup de force dans les élections. Il y a un changement vers la droite dans beaucoup d'États membres. Ouais. Donc c'est difficile. Si maintenant la Commission dirait oui, on met tout l'argent sur le vert, ou beaucoup plus d'argent sur le vert, ce qu'elle devrait faire, je suis d'accord. Mais les États membres viendraient et ça ne passerait pas. Et elle doit regarder aussi les réalités politiques. Et c'est ça l'enjeu.
Alors, quelques heures après la présentation du projet de budget par la Commission, les critiques ont fusé de toutes parts. Des gouvernements et des corporations se sont dit mécontents, mais également d'autres institutions européennes, comme le Comité des Régions. Alors, quel est leur argument ? Nous avons posé la question à la présidente du comité, Kata Tuto, et voici ce qu'elle a déclaré.
I understand that this proposal turns cities and regions.
Je pense que cette proposition transforme les villes et les régions en simples exécutants de la politique de cohésion. Il s'agit d'une centralisation claire, d'un modèle descendant clair
au lieu d'une participation active à la conception et à la mise en œuvre des politiques.
And implementing the policies, so putting agriculture.
Ainsi, en mettant l'agriculture, l'immigration, le contrôle des frontières et la politique de cohésion dans un seul sac, un seul paquet, on transforme l'ensemble en Hunger Games. Cela va se retourner contre les agriculteurs, les maires, les villes, et cela sera nocif pour la politique du logement, le chômage et les aides à l'agriculture.
And agricultural subsidies.
Alors Kata Tutu, j'ai l'impression qu'elle n'est pas sur une position très divergente de la vôtre, Bruno, parce que justement, elle n'aime pas trop cette idée de centralisation des politiques de cohésion d'agriculture. Bon, son jugement est sans appel, mais est-ce qu'elle a, justement, elle a ce qu'elle a raison?
Mais ce qu'elle exprime, c'est qu'elle ne veut pas un modèle top-down, c'est-à-dire un modèle qui soit agrégé au sommet et dont les régions, les pays soient les simples exécutants. Et je pense que cet argument possède une certaine légitimité. Parce qu'on parlait il y a quelques minutes de la défense et du climat. On oppose deux choses finalement extrêmement importantes. On oppose le sauvetage de la planète, et on sait que c'est un risque existentiel, il n'y a pas d'autre mot, à des investissements dans la défense qui est un moyen de destruction de la planète et des hommes. Et je serais extrêmement inquiet de voir que ces arbitrages soient concentrés au niveau européen. D'autant plus qu'il y a quand même un problème de transparence démocratique. On parle de l'Europe comme étant une Olympe technocratique, je crois que ce n'est pas tout à fait faux. Et donc le citoyen ordinaire, en fait, n'a que peu de liens qui sont pris au niveau européen. Et donc je pense que l'Europe, en voulant agréger les pouvoirs et en changeant les priorités selon des mécaniques qui nous sont un peu obscures et abscondes, à mon avis, ne répond pas aux besoins démocratiques des peuples.
Donc si je comprends bien, les grands perdants, c'est quand même le climat, Laurie, du coup.
Complètement, comme le dit cette dame dans la vidéo, c'est qu'on a un fourre-tout, on a un budget fourre-tout, et battez-vous pour avoir des miettes. La cerise sur le gâteau, c'est le budget LIFE, qui était du coup un budget dédié à l'action environnementale, notamment en finançant des ONG cruciales en la matière qui font le travail délaissé par les États membres. Et bien ce budget maintenant, il est dilué dans cet énorme pot commun, et une partie dans le fonds pour la compétitivité de l'industrie et des entreprises. Alors financer l'industrie et les entreprises quand elles font le job d'un point de vue social et environnemental, il n'y a pas de problème. Le grand risque, en fait, c'est le manque de conditionnalité. Donner de l'argent pour pas être sûr qu'en fait, à la fin, on ait des vrais impacts sociaux et environnementaux concrets. Et donc ça, c'est crucial de le rappeler. Mais surtout, j'aimerais rappeler qu'il y a quelques mois, la simplification d'Ursula von der Leyen rimait avec dérégulation. Et maintenant, en fait, elle rime avec dilution. Et donc, battez-vous pour les miettes. Et en effet, les miettes, ce sera probablement pour le climat et la biodiversité.
Oui. Alors justement, les autres grands perdants, c'est qui? On a les agriculteurs, le tabac, la nature, qui d'autre perd dans cette bataille?
Maintenant, tout le monde dit qu'ils perdent. Mais à la fin, il faut dire, il y a beaucoup de défis nouveaux. Il y a la défense. C'est un défi réel. Il faut dépenser plus et il faut dépenser en européen. Donc, c'est clair et c'est nécessaire qu'il y ait un poste important dans le budget pour la défense, à mon avis. Après, le climat, il reste. C'est vrai que les agriculteurs, ils perdent le plus. Après, aussi, les régions, ils perdent. On l'a écouté avant. Mais aussi, il faut dire que la politique de cohésion ne fonctionnait pas très bien. Donc, il faut se dire... Il y a des études qui prouvent que, oui, elle a aidé cette politique de cohésion de réduire les inégalités entre les régions, mais dans les régions qui ont touché l'argent, l'inégalité sociale, en fait, elle a augmenté. Donc, ça aide aussi aux élites dans les régions pauvres. Donc, ce n'est pas vraiment une politique qui fonctionne bien. Donc, c'est bon d'avoir un changement. Il faut changer quelque chose.
Oui, mais du coup... En gros, pour vous, les batailles idéologiques qui arrivent pendant ces deux prochaines années, puisqu'il va y avoir une négociation sur les deux prochaines années, elles sont où exactement, Bruno?
Mais fondamentalement, la bataille idéologique, elle est multiforme. Elle est d'abord dans le temps. Il y a une question de temporalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut finalement sauver et léguer à nos descendants et même à nos propres générations. Et je pense que, pour revenir à ce qui a été dit, la lutte contre les défis climatiques, ça doit primer à tout prix, parce que finalement, on n'aura plus de terre, sinon un jour, on aura beau discuter de tout et de rien, ça n'aura plus le moins d'intérêt. Mais finalement, la lutte idéologique, c'est en fait le modèle qu'on veut garder, et ça dépasse largement le cadre du budget européen, c'est le modèle qu'on veut garder en Europe. Est-ce qu'on veut garder un modèle d'État social, ou est-ce qu'on veut rentrer dans une logique qui est beaucoup plus néolibérale, que je qualifierais même d'exolibérale, en fait référence à Trump, c'est-à-dire un modèle où l'économie de marché, avec son instantanéité dans la formation des prix et des quantités, prime sur le bien-être à long terme. C'est ça le vrai débat qu'on a maintenant. Et donc, c'est quand vous parliez de choix idéologiques, on parle bien de choix politiques idéologiques.
Mm-hmm. Et justement, Laurie, ce modèle, c'est quoi ?
Mais moi, je trouve qu'en termes d'idéologie, on impose deux choses. En effet, d'une part, la défense pour une potentielle menace et le changement climatique, qui est une menace avérée, concrète, qui coûte déjà des milliards dans l'inaction. Donc ça, c'est très important de le rappeler, c'est qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables. Et on va définancer l'une au profit de l'autre, alors que ce n'est pas comparable. Et si on voulait réellement prendre les menaces de manière générale au sérieux, en fait, on prendrait le changement climatique davantage au sérieux et on lui donnerait le financement dont il a besoin. Une deuxième bataille idéologique, c'est le climat versus les entreprises / l'industrie. Mais j'aimerais rappeler que les entreprises et les industries, elles ne seront que plus prospères de prendre la question climatique en cause. Pourquoi ? Parce que les risques climatiques, ce sont des risques financiers qui se chiffrent en euros, en millions d'euros. Les seules entreprises qui survivront à cela, c'est celles qui le prennent en compte dès maintenant, investissent dans la lutte et dans l'adaptation. Et alors faire des politiques qui avantageraient celles qui ne font pas cela, c'est absolument pas du tout un bon calcul d'investissement.
En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de taxation au niveau européen, parce que c'est comme ça maintenant que la défense, le social, le climat sont mis en concurrence l'un avec l'autre. Et on ne peut pas il faut dépenser plus sur toutes ces priorités en européen, mais on n'a pas l'argent. Et on doit aller chercher l'argent, on doit chercher en fait des miettes chez les États membres, et on ne peut pas faire une politique de taxation qui va vers les riches, qui va vers les grandes fortunes. C'est impossible dans les règles, dans le cadre qu'on a maintenant. Et c'est ça qui fait tout ça.
On a quand même un système de ressources propres, puisqu'on est...
Oui, on a un système, mais si on veut introduire de nouvelles ressources propres, c'est extrêmement difficile. On a besoin de l'unanimité. Si on veut des taxes, c'est l'unanimité. Donc, l'Irlande, le Luxembourg, ils peuvent à eux-mêmes, ils peuvent bloquer tout ça. Et comme ça, on crée un problème social, parce qu'on voit un Espagnol, il dit maintenant j'ai moins de dépenses sociales, j'ai moins d'aide sociale, parce qu'ils doivent acheter des chars contre la Russie. C'est difficile à expliquer.
Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui répugneraient à payer un impôt directement à l'Europe, parce que d'abord l'impôt exige un certain consentement, et d'autre part, comme les objectifs de la Commission ne sont pas stables, ils sont influencés par des considérations géopolitiques trumpiennes, on va dire, ça voudrait dire que finalement nos impôts directs seraient décidés par un cénacle de personnes qui ne sont pas élues et qui décideraient en fonction de leur influence politique personnelle ce qu'ils vont faire de l'argent. Donc je pense que ça poserait vraiment un problème de légitimité financière. Fiscal.
Oui, mais on en revient finalement aussi à l'indépendance de la Commission. Absolument. Et la possibilité qu'il y ait un vrai budget européen. Justement, cette idée de taxe, d'impôt direct européen, ça serait une folie.
Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que pour la première fois, on parle de taxer les grandes entreprises au profit de l'Europe de manière générale et de ces grands enjeux qui ne sont pas toujours bien sélectionnés et qui dépendent du contexte politique. Mais pour une fois, on en parle. Et ça, s'il y a bien quelque chose de positif que je dois ressortir de ce budget, c'est ça, c'est que c'est sur la table. Que ce soit fait au niveau européen, ça me semble, comme le dit Bruno, très compliqué. Mais en tout cas, c'est à l'agenda pour une fois. On va enfin parler de taxer ces grandes entreprises, appliquer le principe du pollueur-payeur et peut-être finalement arriver à dégager de l'argent pour les vrais enjeux qu'on a mentionnés juste avant. Et donc ça, en ce sens, pour moi, c'est une victoire. Comment elle va être appliquée, vous l'avez dit, au niveau européen, ça risque d'être très compliqué, mais en tout cas, écrire noir sur blanc qu'il y a une volonté d'aller chercher l'argent là où il y en a, c'est pour moi l'unique victoire de ce budget.
Vous parlez justement des aspects plutôt positifs de ce budget. Les gagnants, on sait aussi que c'est l'Europe de l'Est, parce que l'élargissement, l'Ukraine, les consommateurs d'électricité, les technologies numériques, la défense, on l'a dit, la recherche et la culture. Est-ce qu'on oublie quelque chose, Janosch ?
Oui, bon, je crois en fait les États frugaux comme l'Allemagne, ils ont dit « Ah, on est contre tout ça », mais en fait, ils gagnent beaucoup avec ce fonds de compétitivité qui est beaucoup plus grand, c'est quelque chose de nouveau, c'est presque 400 milliards d'euros. On a beaucoup de fonds pour la défense, pour l'industrie de défense, on a beaucoup... On a presque doublé l'Horizon, Horizon Europe, c'est le programme de recherche. Et ça, c'est des fonds qui ne sont pas déjà transmis vers les États membres. Donc là, c'est l'excellence qui compte, c'est de bons projets. Et là, c'est beaucoup d'entreprises Allemagne, des entreprises allemandes qui vont gagner ces projets et ces fonds. Et c'est beaucoup plus, c'est un aspect beaucoup plus important maintenant. Il reste bien sûr contributeur net, mais là, il a gagné beaucoup, en fait.
Alors justement, pour rester sur un point de vue un peu général, Bruno, je tourne vers vous. On sait qu'aujourd'hui en Europe, beaucoup de pays, notamment la France, ont un vrai, très gros déficit. Et d'un coup, en Europe, on parle d'un budget très conséquent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de dichotomie?
Mais oui, il y a une contradiction complète, parce que les ressources européennes viennent essentiellement des États. Et donc, on a, en Belgique comme dans d'autres pays au niveau européen, un énorme problème qui est essentiellement lié, parce que c'est l'arrière-plan en commun, au vieillissement de la population. Ce qui veut dire plus de dépenses sociales, moins de recettes fiscales, parce qu'une population vieillissante produit moins de croissance et de richesse. Et donc, on a un basculement complet du modèle par rapport à ce qu'on a constaté il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Ce qui veut dire que l'Europe en tant que telle aura une faible croissance, donc un besoin absolu de déficit budgétaire et d'endettement public, et alourdir le budget européen alors que les pays pris de manière isolée ont déjà ce problème, peut-être l'Allemagne moins que d'autres, ou Luxembourg moins que d'autres, ça va créer un hiatus complet.
Ouais. Et donc alors, hiatus, on en aura beaucoup.
Mais on aura
sur cette discussion, il y aura beaucoup de batailles idéologiques, comme je l'ai dit. Et bien, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Restez avec nous.